Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et aujourd'hui, reportage au Diapason à Rennes qui accueille jusqu'au 7 mars une nouvelle exposition. Un passé, pas si dépassé, c'est son nom, présente une sélection de retirages de plaques de verre photographiques. Des clichés qui ont été pris par des membres de la faculté des sciences des années 20 à 30. Ces photographies du passé, elles invitent les visiteurs et les visiteuses à s'interroger sur ce que la mémoire collective transporte autour de ces activités. Et l'entrée est libre.
Alors on se trouve au Diapason, au sein du campus de Beaulieu. On se trouve donc dans l'exposition « Passé, pas si dépassé », qui se tient du 16 janvier au 6 mars 2025. Alors je suis Marion Lemaire, je suis directrice adjointe du service culturel de l'université et je suis responsable des collections muséales de l'université.
Et donc commissaire sur cette exposition.
Et commissaire sur cette exposition-là, à laquelle a aussi participé Rémi Fradin qui a fait toute la partie design et graphique. C'est une exposition qui présente une sélection d'une vingtaine de retirages de photos, de plaques de verre patrimoniales de l'Université de Rennes, avec plusieurs fonds présentés, mais notamment le fond du laboratoire de géologie, qu'on appelle le fond Yves Milon, du nom du professeur de géologie qui a conservé ce fond, mais qui est aussi quelqu'un qui sera maire de la ville de Rennes. Et puis le fond Lucien Daniel, qui lui était botaniste, professeur de botanique appliquée.
Yves Milon, c'est un personnage important de l'histoire de Rennes. Pour continuer à le présenter un peu, à 33 ans, il devient le plus jeune professeur de géologie de France, à l'université de Rennes donc. Il fait construire un institut de géologie 5 ans plus tard, près du Tabor. La Seconde Guerre mondiale le rattrape ensuite. Il est démobilisé en 1940 et entre alors dans le réseau de résistance Johnny. Il transmet des renseignements aux services britanniques et l'institut de géologie devient une base importante de la résistance. Yves Milon s'oppose aux occupants qui tentent d'investir la fac. Il est expulsé de sa maison par les Allemands et finit par vivre dans les sous-sols de l'Institut de géologie. En juin 1944, il est fait otage. Il sera libéré et deviendra maire de Rennes en 1945. Il finira par se retirer de la vie politique en 1953 pour retourner à ses travaux de géologie. Merci Wiki Rennes pour toutes ces infos et retour à notre exposition issue en partie du fond de ce personnage.
Donc on a retrouvé ces photographies, ces plaques de verre étaient dans les fonds de l'université. C'est des négatifs sur plaques de verre et elles ont été numérisées en 2017 grâce à un financement de la Fondation Langlois. Et on n'avait pas trouvé l'occasion de les valoriser. Et aujourd'hui, par cette exposition, l'idée est effectivement de faire connaître ce fond de plaques de verre.
C'est donc la première fois qu'elles sont imprimées pour être montrées au public ?
Récemment, oui. Même si on ne connaît pas leur vie quand elles ont été faites. Hein. Elles ont été prises entre les années 1910 et les années 1930-1940. Elles ont sans doute été prises pour être utilisées pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour des projections, pour des cours, mais plus certainement pour certaines pour servir à être mises dans des publications. Et puis d'autres qui témoignent plus spécifiquement de la vie à l'intérieur de la faculté des sciences à cette période.
Est-ce qu'on parcourt les panneaux qui sont devant nous en s'arrêtant pour essayer de donner un peu à voir aux auditeurs.
Oui, ouais. Il y a quatre grandes parties avec quelques petits ajouts, mais en tout cas la première partie, effectivement, sur laquelle on se trouve actuellement, on l'a intitulée portrait, que ce soit portrait individuel ou portrait de groupe, parce qu'effectivement, parmi le fond de photographie, sans trop de surprise, on va retrouver beaucoup de portraits, effectivement, de professeurs ou d'agents de l'université. On a quelques photos de groupe, effectivement. On peut avoir, par exemple, une photo de Lucien Daniel, professeur de botanique, parmi ses élèves qui suivaient ses cours de botanique appliquée au début du XXe.
Et on sait quelle était la visée de ces photographies ?
Pas forcément. Je pense qu'il y avait quand même sur cet aspect-là l'envie de garder une trace, garder en mémoire, en fait, les personnes qui travaillent à l'université, les professeurs. On n'était pas sous le régime qu'on a actuellement quand on prend des photos sur la photographie numérique. Parfois, c'est plus pour partager après l'instantané, sa vie. Alors que là, on prenait des photos plus pour garder trace, garder en mémoire quelque chose. On n'était pas sur l'instantanéité parce qu'il fallait voir quand même que techniquement, prendre une photo n'était pas aussi instantané que ce qu'on le fait aujourd'hui.
Il y a une grande photo de groupe, Lucien Daniel, que vous avez cité, avec des étudiants et des étudiantes. Donc il y a un public mixte. Je pense qu'il y a quand même, pour cette époque-là, beaucoup d'hommes représentés plus que les femmes.
Alors, il y a effectivement beaucoup d'hommes, c'est certain, mais que ce soit sur les photos de groupe des étudiants de Lucien Daniel ou que ce soit sur les photos d'excursion en géologie, on voit quand même quelques femmes. Il y avait des femmes qui travaillaient au sein de du laboratoire de géologie. Après, ce qui est sûr, c'est qu'elles accédaient sans doute moins facilement à des postes de professeurs, en fait. C'était une dynamique qui était celle-là. Et effectivement, ce qui est intéressant sur ces photographies, c'est qu'elles nous permettent justement, elles ont un siècle, mais elles nous permettent de questionner aussi des choses qui sont encore, des questionnements qui sont encore actuels.
D'où viennent les photographies ? C'est la question qui est posée dans le panneau suivant. Sur les disciplines représentées, beaucoup vous avez parlé de géologie, la botanique aussi.
Alors le plus gros fond, enfin qu'on a en tout cas, on peut en retrouver un dans l'avenir, mais le plus gros fond qu'on a effectivement, c'est le fond de géologie. Et puis on a aussi un fond en botanique qu'on a numérisé et qu'on a identifié comme le fond Lucien Daniel. Mais on ne l'avait pas forcément identifié comme ça au moment de la numérisation. Et on recherche encore effectivement des photos d'autres disciplines, en fait. Là, sur ces numérisations-là, c'est principalement la géologie, effectivement.
Lucien Daniel, qui vient d'être cité, est un botaniste né en 1856 à Mayenne. Il est issu d'une famille d'agriculteurs. En 1901, il devient professeur de botanique à la faculté des sciences de Rennes. Il fondera également la Société Bretonne de Botanique ainsi que plusieurs revues scientifiques. Spécialiste du greffage, il a créé de nouvelles espèces de plantes et était au cœur d'une grande bataille autour du greffage des vignes contre lequel à l'époque il mettait en garde.
Si on prend la faculté donc des sciences dans les années 20-30 et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui les lie ? Est-ce que finalement le décor a beaucoup changé ?
Alors au niveau des bâtiments, on n'est plus du tout sur le même bâtiment puisque le campus de Beaulieu, il a été construit dans les années 1960. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, néanmoins, on retrouve en fait dans les laboratoires et puis après nous au sein de l'équipe en charge du patrimoine plutôt des objets qui auront été collectés ou utilisés à cette époque en fait. L'enseignement ayant beaucoup changé, par exemple on a beaucoup de collections qui ont été faites à la fin du 19e, début 20e, notamment en histoire naturelle, en géologie, botanique, qu'on retrouve aujourd'hui dans nos fonds patrimoniaux, mais qui sont plus utilisés de la même manière, même si elles peuvent encore l'être aujourd'hui, en fait. Par exemple, en botanique, une planche d'herbier, si elle est, la plante a été collectée en mettant le lieu et la date de récolte, ça reste encore une donnée scientifique. Alors là, on se retrouve devant le panneau qui évoque le documenter la science, puisque effectivement, la grande majorité des images qui sont dans nos fonds sont des images qui ont servi voilà, pour des fins de recherche. Lucien Daniel, notamment, a beaucoup fait de photos de végétaux, de son jardin expérimental. Toutes n'ont pas été numérisées, on avait fait juste une sélection. Et puis, on a aussi alors, quelques photos qui sont exposées, qui proviennent, elles, de l'école de médecine et de pharmacie, du laboratoire de physiologie. Donc, on a assez peu d'éléments, en fait, sur l'origine hein, de ces photos, pourquoi elles ont été faites. On sait juste, effectivement, c'est des dispositifs expérimentaux qui ont été pris. Est-ce que ça a été pris pour une publication, pour garder en mémoire le dispositif? Là, on manque d'éléments pour pouvoir le dire. Néanmoins, en fait, la photographie, assez vite, même dès ses origines, en fait, est un outil pour les scientifiques, en fait.
La photographie, les débuts, c'est quand?
1840. Ah, oui. Okay. Après les années 1840. Et même au départ, en fait, ça, avant qu'on en ait un usage entre guillemets récréatif ou intime, c'était, je pense, à l'origine pour être un outil scientifique, en fait, garder en mémoire des éléments scientifiques.
Donc devant nous, il y a des photographies de végétaux ou encore d'instruments en laboratoire. Et on lit que ces images servaient parfois à illustrer aussi les publications scientifiques dont la parution s'accélère au début du XXe siècle. On passe aux excursions.
Oui, alors comme on est sur des disciplines qui sont des disciplines naturalistes, hein, que ce soit la géologie ou la botanique, effectivement, ça fait partie de la formation. Donc on a beaucoup de photos et puis ça restait quand même quelque chose assez exceptionnel encore aujourd'hui. Hein, en fait, quand on va en excursion, souvent c'est le moment où on se photographie, on fait des photographies de groupe au moment du pique-nique ou à un autre moment. Donc on a effectivement beaucoup de photographies qui sont prises en excursion, des photographies éventuellement de paysages ou d'objets naturels qui peuvent être trouvés lors de ces excursions-là. C'est assez précieux parce que, notamment, on peut avoir des photos sur des anciennes carrières, des anciennes mines. Donc, voilà, au-delà de l'aspect anecdotique, voilà, au niveau recherche aussi, ça peut être intéressant.
Là, en l'occurrence, c'est, en concernant les lieux, c'est des excursions plutôt sur la région Bretagne?
Dans les photos, il n'y a pas que la région Bretagne. On a des photos de la société SGMB, Société Géologique et Minéralogique de Bretagne. Donc, on va avoir des excursions que faisait cette société. Et puis, parfois, on peut avoir des photos de la Société Géologique de France, près de Bordeaux. Mais principalement, en fait, c'est quand même des excursions qui sont prises dans la région. Les étudiants faisaient des excursions dans la région, en tout cas.
On l'a déjà un peu évoqué, mais le panneau suivant, il évoque donc les visions, à savoir ce que ces photos du passé nous permettent de questionner aujourd'hui.
Oui, ça c'est un panneau qui me tenait à cœur, puisqu'en fait, il ne rentrait pas dans les autres catégories, mais néanmoins, quand on feuillette en fait ces photographies, qu'on les regarde, il y en a certaines qui nous interpellent, qui ne rentrent pas toujours dans une case, dans les cases qu'on a décrites avant, et pour autant qui nous interpellent et qui, vues depuis notre présent, en fait, peuvent nous permettre de questionner. Ben, on parlait par exemple de la place des femmes dans la recherche, donc effectivement, on va avoir des photos de groupe où on a des femmes. On a des photos, voilà, notamment le préparateur de zoologie avec ses singes. On sait que voilà, beaucoup de collections constituées à la fin du 19e siècle le sont avec des éléments et des spécimens qui sont pris en fait dans les empires coloniaux. C'est la pleine période coloniale. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui questionnées en fait par les historiens et les spécialistes du patrimoine. Donc ces photos regardées aujourd'hui peuvent nous permettre de poser ces questions-là.
Est-ce que vous, il y a une photographie sur laquelle vous êtes tombée pendant la préparation de cette exposition et qui vous touche plus que les autres?
On est juste en face, en fait. Je pense que celle-là, je pense que c'est pas au moment de la préparation de l'exposition, c'est au moment de la numérisation, puisqu'on savait pas ce qui allait ressortir de la numérisation. Et celle-là m'a beaucoup surprise. C'est une photo qui est prise depuis les toits de l'ancienne faculté des sciences à Rennes, donc qui est place Pasteur, qui est prise en janvier 1921. Et c'est une vue de la Vilaine, en fait, prise par la glace avec la neige. Voilà, et elle me touche beaucoup parce que moi, ça me rappelle effectivement toute l'émotion qu'on ressent quand on est enfant ou pas enfant, d'ailleurs adulte, avoir la neige tomber, l'excitation qu'on a. Et je me vois très bien prendre une photo si la neige tombait demain. Voilà, on est en janvier, hein, date pour date. J'irai sans doute prendre une photo du campus sous la neige, sans souci. Donc celle-là, ouais, elle me touche beaucoup.
Une photo d'Yves Milon qu'on a déjà citée. le dernier ensemble de photos, donc intitulé Dupliqué. Il n'y a pas de commentaires, ça veut aussi dire que pour peut-être de nombreuses photos que vous avez découvertes, il n'y a pas forcément toutes les informations nécessaires pour les comprendre, ces photographies.
Alors, en fait, dupliquer, c'était parler aussi de la spécificité effectivement de la photo. Voilà, à partir d'un négatif, on peut créer plein de photos identiques ou quasi identiques, mais qu'effectivement, quand on a perdu le contexte en fait de création, on n'a plus d'éléments, et le fait qu'elles puissent être dupliquées, elles peuvent être diffusées très largement. C'est un petit peu la même chose qu'on retrouve aujourd'hui. On va faire des photos qu'on va publier sur Internet, mais en fait, en dehors, quand on n'a pas le contexte, quand on n'a pas la date qu'il a pris, pourquoi, etc., ben, on perd une information. Alors, on peut toujours ressentir une émotion sur certaines photographies, mais néanmoins, ça reste un manque de ne pas avoir le contexte dans lequel ça a été fait.
Peut-être terminer en redisant un mot sur les collections muséales de l'université. Qui sont toujours montrés à différentes occasions au public d'étudiants, mais aussi au grand public sur certains moments.
Oui, alors elles ne sont pas ouvertes en permanence, hein, on n'est pas effectivement un musée. Par contre, effectivement, on essaye de faire des ouvertures régulièrement lors des événementiels. Le prochain événementiel étant le 25 janvier, samedi 25 janvier, on fait des ouvertures en visite libre l'après-midi. Voilà, il n'y a pas besoin de réserver. Alors parfois, on a des jauges dans les espaces, donc il peut y avoir un peu d'attente. Et puis, très régulièrement aussi sur des midis, on ouvre entre 12h et 14h. On retrouve toutes les informations sur le site internet du service culturel de l'université. Il y a une petite page dans l'onglet patrimoine qui s'appelle « Visiter les collections ». Et cette page est remise à jour en fait avec les nouvelles dates qui peuvent être mises au fur et à mesure de l'année, des occasions de visiter les collections de l'université. Alors on estime, et c'est très très difficile à estimer à 200 000 près, on va dire 1,3 million objets en collection. Alors c'est beaucoup beaucoup de la micropaléontologie, il faut reconnaître ce qui est. Et c'est des collections qui sont dans des disciplines qui n'ont plus ce nom aujourd'hui, mais qu'on utilise encore, hein, géologie, on en parlait, botanique, mais également zoologie. Et puis aussi une très belle collection d'instruments scientifiques anciens, 19e, mais également d'instruments scientifiques contemporains.
Si vous êtes curieux de découvrir ces collections de l'Université de Rennes, en plus de pouvoir aller les découvrir lors de visites, il y a un livre qui a été publié sur la collection de zoologie en 2022, Un trésor naturaliste. C'est le fruit du travail d'Alain Canard, Bernard Le Garf et Dominique Bernard, des anciens de la Faculté des Sciences. On y découvre en texte et en photo une partie des milliers de spécimens naturalisés, ainsi que les noms de ceux qui ont fait vivre cette discipline à Rennes dans le passé. Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.